condamnée et pourtant candidate. Marine Le Pen a été condamnée en effet en appel pour détournement de fonds publics à 3 ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique. Et pourtant, la voilà candidate à l'élection présidentielle de 2027. Le droit, la morale, la justice, la politique. Vous écoutez le 116e épisode de Quid Juris. Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes, préparé avec Elsa France, en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Et cette semaine, l'actualité, c'est évidemment cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu mardi 7 juillet 2026, dans l'affaire dite des assistants parlementaires des eurodéputés du Front National et du Rassemblement National. 12 prévenus, dont le RN en tant que personne morale, était concerné par cette décision, mais c'est évidemment le cas de Marine Le Pen qui focalise l'attention. La Cour d'appel l'a condamné, je le disais, pour détournement de fonds publics à 3 ans de prison, dont un an ferme aménageable sous bracelet électronique, 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende. Son inéligibilité étant purgée et à la faveur d'un pourvoi en cassation qui suspend sa peine, Marine Le Pen s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle. Dans Quid Juris aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre les motivations de la Cour d'appel et d'analyser la stratégie à la fois judiciaire et politique de Marine Le Pen. Bonjour Pierre Egea.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Toulouse, à l'École de droit de Toulouse aussi. On a besoin de vos lumières aujourd'hui, mais d'abord, je ne peux pas commencer notre échange sans vous demander votre réaction après cet arrêt de la Cour d'appel. J'énonçais les condamnations, 3 ans de prison dont un an ferme, 45 mois d'inéligibilité, mais on a compris que celle-ci était donc purgée. Quelle est votre lecture à vous de cette décision ?
Je lis cette décision à l'aune de l'émoi que la décision de première instance avait suscité. Pour moi, c'est une proposition de paix juridictionnelle. Une proposition de paix juridictionnelle avec un aspect jugement de Salomon, puisque, en définitive, la Cour d'appel reprend l'analyse au fond du tribunal correctionnel. Il y a des détournements de fonds publics. Évidemment, la peine de prison est minorée, mais elle existe. Quant à la peine d'inéligibilité, elle est également minorée, mais elle est aussi prononcée. L'aspect jugement de Salomon vient du fait que, tout en confirmant à peu près le jugement du tribunal correctionnel, eh bien, au moment où la Cour d'appel prononce une inéligibilité, Marine Le Pen est éligible.
Alors, quand on a vu cette décision, on s'est dit, a priori, cette décision, elle est plutôt très diplomatique. Les 15 mois d'inéligibilité sont déjà purgés, puisque, en fait, elle a commencé à courir dès le premier jugement du 31 mars 2025. Du coup, les juges lui imposent un bracelet électronique, mais ne l'empêchent pas de se présenter. A priori, à première vue, on s'est dit, c'est assez malin. Vous avez dit une proposition de paix, d'une certaine manière. Sauf qu'à l'arrivée, elle est candidate. Et c'est quand même alors qu'elle a été condamnée à 2 reprises pour détournement de fonds publics. Il est peut-être là le problème.
Alors, le fait qu'elle soit candidate alors qu'elle a été doublement condamnée peut poser un problème moral. C'est pas forcément un problème juridique. C'est un problème moral, c'est un problème politique. C'est pas nécessairement un problème juridique. Et je précise quand même que, in fine, au bout du compte, je note avec une certaine ironie que le jugement de première instance a rendu un grand service à Marine Le Pen, puisque en prononçant l'exécution provisoire, elle a permis à la Cour d'appel, tout en prononçant l'exécution provisoire d'inéligibilité, de la déclarer éligible.
Oui, mais là, il faut m'expliquer, parce que je vais citer la Cour d'appel. Elle écrit précisément, il faut respecter la liberté de candidature sans entraver le libre choix de l'électeur. Mais pardon, la Cour d'appel, comme le tribunal de première instance, ils sont censés dire le droit. Et là, pour le coup, ils sortent de leur rôle en disant ça. D'où ma question, est-ce que c'est au fond la pression médiatique et politique qui ont conduit la cour d'appel, au fond, à faire de la politique d'une certaine manière ?
Alors, la Cour d'appel fait pas véritablement politique. Qu'il y ait eu une dimension politique compte tenu des enjeux, c'est évident. C'est tout à fait évident. En revanche, La problématique de la liberté de choix de l'électeur, c'est le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2018, qui l'a rappelé. Donc en réalité, la Cour d'appel a utilisé la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la question de l'inéligibilité, en rappelant que compte tenu de ce principe de devoir respecter la liberté de choix des électeurs, il y avait lieu d'appliquer le principe d'inéligibilité et de modérer le quantum de la peine, enfin de le fixer avec proportionnalité. Et c'est ce qu'ils font. Ils font un travail de proportionnalité, de mesure. C'est un arrêt mesuré à l'aune de ce principe de proportionnalité.
Mais ce qui est frappant, pardonnez-moi, c'est moi je me souviens de toutes les critiques qui avaient suivi le jugement de première instance. On reprochait justement aux juges de première instance d'avoir fait d'une certaine manière de la politique lorsqu'ils parlaient notamment à propos de cette infraction de trouble à l'ordre démocratique. Et aujourd'hui, bizarrement, ces critiques, on les entend plus. Comme si, parce que Marine Le Pen, du coup, pouvait à nouveau être candidate, bah finalement, il n'y a plus de critiques contre la Cour d'appel, contre les juges, contre les magistrats. C'est quand même deux poids, deux mesures.
Alors, on peut le lire comme ça. Moi, j'ai une lecture un peu différente, soyons clairs. J'estime que la décision de première instance était extrêmement sévère. C'était le maximum, hein, le maximum avec exécution provisoire. Et la motivation de l'exécution provisoire était, selon moi, très maladroite. L'invention de la notion de trouble à l'ordre public démocratique qui n'existe pas dans le droit, cette invention pouvait effectivement paraître comme une irruption du pouvoir juridictionnel dans la vie politique. Et ils ont encore donné, encore une fois, ça a donné un très 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 grand service à Marine Le Pen, parce que ça lui a donné des armes. Et je pense que la Cour d'appel, elle, clairement avec quand même cette tension politique, la Cour d'appel a essayé de revenir à une analyse plus juridique. C'est pour moi, après on peut critiquer bien évidemment, hein, mais en tout état de cause, je trouve que l'analyse, la motivation de cet arrêt est moins sujette à la critique que celui de première instance.
Alors il y a quand même quelque chose où il faut que vous nous éclairiez, parce que l'arrêt d'appel, comme le jugement de première instance d'ailleurs, est extrêmement sévère sur les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et aux co-prévenus. Il dit même à un moment, cet arrêt d'appel, que l'instigateur, c'est-à-dire celui qui a organisé ce système de détournement de fonds, est plus dangereux encore parce qu'on était en droit d'attendre de lui, d'elle en l'occurrence, qu'il respecte la loi et le droit. Et pourtant, les peines sont très nettement inférieures. En appel, c'est 3 ans de prison. Elle avait été frappée de 4 années de prison en première instance. La peine d'inéligibilité a été revue à la baisse. Donc, il y a un décalage peut-être entre la gravité des faits tels qu'ils sont décrits et les peines qui, vous l'avez dit à juste titre, sont bien inférieures à ce qu'elles étaient en première instance.
Oui, il y a effectivement un léger décalage entre l'exposé des motifs, dans lequel on trouve des formulations très lourdes, et le dispositif qui est plus clément.
On parle, pardonnez-moi, je vous interromps, on parle d'un accaparement des fonds publics européens. Elle s'est accaparée. Ils se sont, parce qu'elle n'est pas seule, mais c'est elle qui aurait, après son père, organisé le système. Ils se sont accaparés des fonds publics. Donc l'accusation est quand même extrêmement grave.
Oui. Moi, je lis cette séquence de cette distinction entre l'exposé des motifs et le dispositif. Je le lis comme de la façon suivante. La Cour d'appel, dans son exposé des motifs, est extrêmement rigoureuse, très sévère, laissant ainsi au peuple français le soin de décider si une personne qui s'accapare des fonds mérite d'être élue à la fonction suprême sans l'empêcher.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas de sanctions particulières pour les infractions liées à la probité pour les élus. Et puis, il y a eu l'affaire Cahuzac, la création d'un parquet national financier, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et tout à coup, toute la classe politique était d'accord pour dire il faut qu'on soit intransigeant avec les élus, pardonnez-moi l'expression, qui piquent dans la caisse. Et là, tout à coup, on se félicite parce que finalement, on a été un peu plus clément. Comme si, au fond, on avait changé d'époque. Mais est-ce qu'on est sûr que les Français qui regardent tout ça, eux aussi, ont changé d'époque ?
Là, vous posez une question qui mériterait de très ample développement. Pour vous dire les choses telles que je les pense, il me semble que la Cour d'appel, dans son exercice de diplomatie judiciaire, le terme que nous employions tout à l'heure, il me semble que la Cour d'appel a pris conscience du fait que la condamnation en bloc des politiques valait bien évidemment pour la plupart des politiques qui commettaient des actes qui leur profitaient directement. Il me semble que, s'agissant de Marine Le Pen, en dépit de l'extrême sévérité de l'exposé des motifs, il est quand même souligné qu'elle n'a pas tiré profit personnel de ce détournement de fonds publics.
Alors, je confirme ce que vous dites. L'arrêt dit qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. En revanche, il y a bel et bien un enrichissement partisan, à savoir que sans ces fonds, le parti n'aurait pas été en mesure de s'offrir ce qu'il s'est offert avec les fonds européens.
Absolument.
Deuxième point, parce que ça, c'est l'arrêt, mais il se trouve que Marine Le Pen a choisi de se pourvoir en cassation. Ce pourvoi suspend la peine, donc pas de bracelet électronique dans l'immédiat, et surtout, elle est de nouveau considérée comme présumée innocente. Sauf qu'elle prend un risque si la Cour de cassation rend sa décision avant le premier tour de l'élection présidentielle et que la Cour confirme l'arrêt d'appel. Est-ce que c'est une épée de Damoclès pour sa campagne ou, comme elle semble le dire, elle n'en a pas peur, pour elle, ça ne change rien?
Alors, il faut mesurer le risque et l'avantage. L'avantage pour Marine Le Pen, il est très important. À partir du moment où elle est libérée du fardeau de l'inéligibilité, à partir de ce moment-là, elle peut faire campagne, elle décide de faire campagne. Pour faire campagne librement, elle fait un pourvoi en cassation avec avec deux motifs. Le premier motif, bien sûr, c'est qu'elle sera libérée de cette entrave que constitue le bracelet électronique, qui est un aménagement de peine. Et le deuxième point extrêmement important, bien sûr, c'est qu'elle peut dire à ses électeurs « je me battrai jusqu'au bout parce que je suis innocente ». Et par conséquent, elle se présente publiquement comme pugnace, combattante, désireuse d'aller jusqu'au bout d'une analyse qui est celle de son avocat, analyse consistant à dire qu'il n'y a pas en l'espèce de détournement de fonds publics, que ce n'est pas la bonne qualification juridique, etc., etc.
Alors c'est le moment de notre échange, Pierre Egea, où il faut que vous preniez votre calculette et que vous m'expliquiez, parce qu'il y a des choses que je ne suis pas forcément. Je me souviens, à ce micro, ici à Quid Juris, Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation, et Rémy Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, sont venus ici pour dire que la Cour de cassation allait accélérer ses délais pour rendre un arrêt fin 2026, au plus tard début 2027. Et puis là, il y a eu un communiqué hier de la Cour de cassation pour dire finalement, on rendra cet arrêt au plus tard, au début du mois d'avril. Je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, le premier tour, c'est le 18 avril. Donc cet arrêt pourrait être rendu 15 jours, 3 semaines avant le premier tour. D'où ma question, est-ce que c'est un risque politique, juridique pour Marine Le Pen ?
Alors, le risque, c'est la décision de la Cour de cassation qui confirmerait l'arrêt de la Cour d'appel. Moyennant quoi, la décision de l'arrêt de la Cour d'appel devient définitive. Mais, première chose, j'ai des doutes sur le fait que la Cour de cassation rende son arrêt en avril, comme ils le disent. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, les avocats vont utiliser les mesures dilatoires les plus classiques.
Alors, expliquez-nous lesquelles, en l'occurrence ?
Sans doute une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, je ne pense pas que la Cour de cassation renverra la question prioritaire de constitutionnalité, mais néanmoins, c'est un premier incident de procédure. Un deuxième incident de procédure possible, c'est utiliser le protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire solliciter de la Cour qu'elle demande un avis à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une deuxième possibilité. Ça, c'est une première chose.
Il pourrait y avoir aussi, pardonnez-moi, un recours en suspicion légitime ?
Il y a aussi des possibilités de recours en suspicion légitime, bien évidemment, mais qui peuvent être là assez rapidement évoquées. Le point central, en réalité, c'est la légitimité de l'accélération du process.
Qu'est-ce que vous suggérez ? Vous suggérez que dès lors, comme le dit d'ailleurs Marine Le Pen et ses avocats, hein, ils disent, dès lors qu'il n'y a plus de problème d'éligibilité, il n'y a plus de raison que la Cour de cassation accélère son calendrier.
C'est une justification qui est compréhensible. Effectivement, dans l'esprit du système judiciaire et de la Cour de cassation, l'idée d'accélérer le processus, c'était dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait la décision de première instance et dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait inéligible. À ce moment-là, accélérer le processus et faire en sorte de ne pas entraver lourdement la campagne présidentielle. Aujourd'hui, la campagne présidentielle, elle peut se tenir. Je rappelle quand même que même si la Cour de cassation confirmait l'arrêt de la Cour d'appel en avril ou en février ou que sais-je, ça n'empêcherait pas Marine Le Pen de se présenter.
Vous avez raison, mais pardon, je vous apporte une contradiction. Moi, je me souviens qu'après le jugement de première instance, les proches de Marine Le Pen demandaient une accélération du calendrier pour la Cour d'appel. Et effectivement, vous l'avez dit, ça aurait pu être le cas pour la Cour de cassation également. Mais certes, il n'y a plus de problème d'éligibilité, mais en revanche, pour le bon déroulement démocratique de l'élection présidentielle, il serait nécessaire, voire indispensable, que les électeurs puissent voter en connaissance de cause et qu'ils sachent avant le premier tour si Marine Le Pen est définitivement coupable ou au contraire définitivement innocente. Ça change la donne d'un point de vue politique.
Ça change la donne d'un point de vue politique, rien n'établit qu'il y aurait un intérêt prééminent à accélérer des procédures par rapport à d'autres procédures par ailleurs. Je pense que même si Marine Le Pen devait avoir, même si l'arrêt devait être rendu en février, en mars, en avril, que sais-je, le temps qu'un juge d'application des peines soit convoqué, qu'il prenne la mesure d'exécution, on serait déjà au-delà de l'élection.
Donc vous êtes en train de nous dire, et je sais que vous n'êtes pas le seul à faire cette analyse, il y a zéro chance pour que Marine Le Pen soit obligée de porter un bracelet électronique avant le premier tour de l'élection présidentielle.
Absolument, je vous le confirme.
Bon, on dit un mot peut-être des délais. Marine Le Pen a 10 jours pour se pourvoir en cassation, donc jusqu'au 20 juillet à minuit. Je crois qu'elle a un mois à partir de cette date pour choisir son ou ses avocats, lesquels ont à nouveau 2 mois pour déposer leurs écritures. On verra d'ailleurs si elle en choisit un ou plusieurs. Et puis, je rappelle qu'elle n'est pas seule à se pourvoir en cassation. D'autres prévenus vont peut-être le faire. Louis Alliot, le maire de Perpignan, a déjà dit qu'il le ferait, et j'imagine que ça rallonge les délais de décision ou de préparation de cet arrêt de la Cour de cassation. Deux choses. Si la Cour casse l'arrêt, il y a donc un nouveau procès, on est d'accord, procès en appel, mais ce procès aura lieu après l'élection présidentielle, très longtemps après sans doute. Mais si elle confirme cet arrêt, c'est quoi la règle ? La règle, c'est que l'arrêt d'appel devient immédiatement exécutoire.
Tout à fait, il passe immédiatement en force de chose jugée.
Donc un juge d'application des peines pourrait très bien être saisi, convoqué.
Un juge d'application des peines va être désigné, il va convoquer Marine Le Pen, et avec Marine Le Pen, il déterminerait les modalités d'exercice de la peine sous bracelet électronique et avec une détention à domicile.
Sauf que le juge d'application des peines, évidemment, individualisation de la peine, il va regarder qui est Marine Le Pen. Or, Marine Le Pen, à ce moment-là, elle est candidate à l'élection présidentielle. Je vous pose la question, vous savez ces choses-là bien mieux que moi, est-ce qu'un juge d'application des peines peut empêcher une candidate de faire sa campagne normalement en lui imposant un bracelet électronique et donc des horaires de sortie, l'obligation de rentrer dormir chez elle, l'interdiction peut-être d'aller à tel ou tel endroit? Est-ce que ça vous paraît envisageable?
C'est totalement inenvisageable. Le juge d'application des peines qui sera désigné, il aura comme tâche sur le plan technique de préciser le lieu d'assignation au domicile de Marine Le Pen, de fixer des plages horaires pendant lesquelles elle doit s'y trouver, en tenant compte, nous disent les textes, de l'activité professionnelle. C'est-à-dire qu'en pleine campagne, le juge d'application des peines sera obligé de tenir compte des meetings, des dates des rendez-vous télévisuels, etc. Vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, un juge d'application des peines, par ses ordonnances, ne pourrait en aucun cas empêcher le libre exercice de la démocratie.
Oui, mais pardon, Pierre Egea, je vais être taquin jusqu'au bout. Vous l'avez dit à juste titre, ce bracelet électronique, c'est un aménagement de peine, parce qu'en fait, elle a écopé d'un an de prison ferme. On ne l'envoie pas en prison, c'est ce qu'on appelle une détention hors hors les murs, elle aura un numéro d'écrou, elle est écrouée, mais pas en prison, à l'extérieur. Et là, vous êtes en train de me dire que cette peine, qui est déjà une peine aménagée, va être encore plus aménagée. Mais au fond, bah du coup, il n'y a plus aucune privation de liberté, puisque vous me dites qu'à une candidate à l'élection présidentielle, on ne peut rien interdire. Donc, où est la peine ?
La peine, ce sera qu'elle ne pourra sortir de son domicile que dans les plages qui seront déterminées en dehors, évidemment, des nécessités professionnelles. Mais ça, c'est la règle, en réalité, qui est classique pour le droit de l'application des peines.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur la cassation. Il y a deux écoles, hein, chez les jurys, chez les professeurs de droit. Si l'arrêt d'appel est cassé, qu'est-ce qui s'applique ? Est-ce que l'arrêt d'appel, du coup, disparaît ? Il est annulé ? Mais est-ce qu'on revient à la situation hantée du premier jugement ? Ou est-ce qu'au contraire, en écrasant l'arrêt d'appel, on écrase aussi le jugement de première instance et on repart à zéro, complètement à zéro ?
Oui. Il y a effectivement un débat. Alors déjà, première chose, il y a deux types de cassation. Il y a la cassation sans renvoi et la cassation avec renvoi. S'il y a cassation sans renvoi, c'est relax et c'est terminé. C'est peu imaginable. S'il y a une cassation avec renvoi, toute la question, celle que vous évoquez, c'est effectivement la cassation avec renvoi entraîne l'annulation pure et simple de l'arrêt de la cour d'appel. Y a-t-il pour autant survivance de la décision de première instance sur l'exécution provisoire ? J'ai entendu quelques avocats dire que tel était le cas. Très honnêtement, je n'y crois pas du tout.
Mais on peut se mettre au moins d'accord sur un point, quelle que soit l'école de pensée qui aurait raison dans le cas de figure, c'est quand même bien à la fin des fins le Conseil constitutionnel qui valide toutes les candidatures, y compris celle de Marine Le Pen en pareil cas.
C'est ça, c'est assez curieux parce qu'on a un débat doctrinal de pénalistes, mais à la fin du jeu, c'est le Conseil constitutionnel qui décidera puisque c'est lui qui validera ou pas. Et très franchement, je n'imagine pas le Conseil constitutionnel prendre, après une cassation avec renvoi, une décision qui consisterait à dire que le jugement de première instance survit. Ça me paraît absolument impossible.
Encore un dernier mot de droit, avant de passer aux conséquences institutionnelles et politiques de tout cela. Marine Le Pen se pourvoit, je le disais, en cassation, notamment sur le fondement de l'article 432-15 du Code pénal sur le détournement de fonds publics. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si j'ai bien compris, ses avocats contestent l'idée que cette infraction puisse s'appliquer aux députés européens, et ils contestent même l'idée que les fonds européens seraient des fonds publics. Bref, que ce qu'on lui reproche, on ne le lui reprocherait pas sur la bonne base juridique. Je pose la question aux profs de droit, est-ce que ça peut tenir la route devant la Cour de cassation ?
Je trouve que c'est un argument qui est assez intéressant, parce que dès l'affaire Fillon, la question qui s'était posée était celle de savoir si un député ou un sénateur devait être considéré au sens des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal comme un dépositaire de l'autorité publique ou comme un chargé de mission de service public. Finalement, la Cour de cassation a répondu en disant qu'effectivement, la Constitution confie aux parlementaires une mission de service public. Bon, moi, je trouve ça assez contestable que ça soit une mission de service public, mais peu importe. C'est pas le sujet. Maintenant, si on applique cette définition et cette vision au mandat européen, par le député européen, la question qui se pose, c'est effectivement de savoir si on peut continuer cette analyse d'une mission de service public, puisque c'est en Europe. Et est-ce que les fonds publics sont des fonds publics au sens du code pénal français ? C'est un vrai sujet. Par ailleurs, je précise quand même que l'analyse de l'avocat de Marine Le Pen était très intéressante sur un point. Il estimait, et c'est la différence sans doute essentielle entre la situation d'un député français et la situation d'un député européen, il estimait que dans le cadre du détournement de fonds publics, seul un ordonnateur a le pouvoir de disposer des fonds. Et donc, en réalité, il disait... L'essentiel des détournements de fonds publics, c'est quand c'est un ordonnateur qui détourne les fonds. Or, les députés européens ne sont pas des ordonnateurs, puisque c'est le Parlement européen qui avance les fonds à un tiers payant.
Donc, vous êtes en train de me dire qu'il y aura bel et bien un débat juridique et qu'il n'est pas complètement absurde de saisir la Cour de cassation sur ce fondement juridique. Encore une petite question, mais je voudrais qu'on torde le cou à quelque chose qui doit faire beaucoup causer dans l'opinion. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Marine Le Pen, élue présidente de la République, entre à l'Élysée avec un bracelet électronique? Je connais la réponse, mais je préfère que ce soit vous qui la donniez.
Oui, alors il faut imaginer donc que Marine Le Pen aurait été donc que l'arrêt de la Cour de cassation soit rendu avant l'élection, qu'elle soit élue, une fois élue, qu'elle entre en fonction. Alors l'article 67 de la Constitution, puis c'est de ça dont il s'agit, ne dit rien sur ces questions. L'article 67 de la Constitution, en particulier l'article 67 alinéa 2, prévoit une immunité, mais une immunité pour les actions à venir. Absolument pas pour les choses qui se sont passées.
Mais cette immunité entraîne un principe d'inviolabilité. Et donc, du coup, il faudrait que la mesure s'arrête la veille de son investiture.
Voilà, la mesure devrait être suspendue.
Voilà.
Suspendue, parce qu'il n'est évidemment pas pensable qu'une présidente de la République puisse être sous bracelet électronique. Mais, encore une fois, l'article 67.2 de la Constitution ne dit rien là-dessus. On n'a jamais prévu ce cas.
C'est formidable parce que du coup, ça fera encore débat chez les professeurs de droit et les juristes. Bon, on a compris toutes les motivations et les implications juridiques de cet arrêt. Je voudrais qu'on essaye d'en analyser les conséquences politiques. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Marine Le Pen condamnée et candidate, Laurent Neumann reçoit Pierre Egea.
Pierre Egea, on a vu toutes les implications juridiques de cet arrêt, vous nous l'avez parfaitement décortiqué, et on voit bien quand même que sur beaucoup de sujets, il y a débat, y compris chez les juristes, y compris chez les professeurs de droit. En revanche, je suis sûr que vous vous souvenez de tout ce qui a été dit à l'issue du premier jugement. Les mots, les critiques contre la justice étaient extrêmement sévères. On parlait de coup d'État judiciaire, de démocratie exécutée, de dictature des juges. Je me souviens même de François Bayrou qui s'était dit, je mets des guillemets, troublé. Le système a sorti la bombe nucléaire, avait même dit Marine Le Pen. Là, on voit bien qu'il y a un changement de ton général, pas simplement de la part de Marine Le Pen et de ses soutiens, mais dans l'ensemble de la classe politique, on a l'impression que tout le monde, politiquement, cette fois-ci, je ne parle plus du terrain judiciaire, mais politiquement, marche sur des œufs à cause de cet arrêt. J'imagine que vous l'avez noté aussi.
Ah oui, bien sûr, mais encore une fois, le jugement de première instance avait suscité des réactions politiques très fortes, à la mesure de la sévérité de cette exécution provisoire avec avec exécution provisoire. Et pour moi, c'est ça, c'est l'exécution provisoire qui à l'époque n'était pas obligatoire, qui n'était pas bien motivée pour 5 ans, qui avait constitué une véritable déflagration dans la vie politique française. Plus particulièrement, ça avait été largement instrumentalisé par ceux qui avaient intérêt précisément à l'instrumentaliser.
Mais pardon Pierre Egea, je vous interromps, mais je rappelle quand même qu'il y a 16 000 décisions d'exécution provisoire qui sont prononcées chaque année en France.
Ah oui, non mais des exécutions provisoires qui soient prononcées, mais ça c'est une exécution provisoire d'inéligibilité.
Mais l'inéligibilité, elle est de droit dès lors qu'il y a une infraction d'atteinte à la probité, quand elle concerne un élu.
C'est ce qui a été voté, mais qui ne concernait pas Marine Le Pen, hein, puisque là, il n'y a pas de rétroactivité, donc
bien sûr,
n'était pas concerné par cette...
Et je rappelle que politiquement, Marine Le Pen était favorable à l'inéligibilité à vie.
Mais c'est tout le paradoxe de ces affaires. Le paradoxe de ces affaires, c'est qu'on vote des lois pour la confiance dans la démocratie française, dans la vie démocratique. On vote des lois pour lutter contre les atteintes à la probité, on crée des arsenaux considérables pour lutter contre ces atteintes à la probité, et lorsque l'on les met en application, et qu'elles sont en application pour des grands politiques, des grands faux politiques, soudainement, évidemment, ça suscite des réactions. C'est typique d'un jeu de puissance.
Alors, vous avez dit à juste titre que, à l'issue du premier jugement, ce qui avait fait débat, c'était l'exécution provisoire. D'ailleurs, certains en ont dit pique-pendre en expliquant qu'on ne pouvait pas faire appel d'une exécution provisoire au pénal, alors que par ailleurs, on peut le faire au civil. Et là, je me rends compte que finalement, vous allez peut-être me démentir, mais c'est peut-être l'exécution provisoire de première instance qui est en train de sauver Marine Le Pen. Parce que s'il n'y avait pas eu exécution provisoire, son délai d'inéligibilité n'aurait pas commencé à courir au jour du premier procès, et aujourd'hui, elle serait peut-être inéligible. Donc j'ai envie de vous dire, si j'étais taquin à nouveau, vive l'exécution provisoire!
Mais vous avez parfaitement raison. De la même façon que souvent, moi, ça m'arrive souvent de voir des personnes qui sont détenues en détention provisoire et qui, lorsqu'ils sont jugés et condamnés, sont enfin libérés. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'exécution provisoire a donné, effectivement, ça a été une très, très, très bonne chose pour Marine Le Pen, puisqu'elle s'est retrouvée devant ses juges 15 mois précisément, après la décision de première instance, et la Cour d'appel a ainsi pu utiliser cette situation d'exécution provisoire pour montrer qu'elle continuait, qu'elle confirmait l'exécution provisoire, mais que cette confirmation n'était sans effet sur elle, puisque l'exécution provisoire était purgée. Donc on a là, manifestement, bien sûr, un jeu. Il y a lieu, effectivement, d'être ironique et de dire « vive l'exécution provisoire ».
Je vais vous faire sortir un tout petit peu, une fois n'est pas coutume, de votre rôle de professeur de droit, mais beaucoup ont dit que le bracelet électronique, c'était un peu symboliquement le boulet à la cheville, un boulet symbolique pour Marine Le Pen. Je me demande si, au fond, le vrai boulet, d'un point de vue politique pour elle, ça n'est pas bien plus cette condamnation pour détournement de fonds publics qu'un éventuel, un hypothétique bracelet électronique. Avoir dans son sac à dos pour une campagne présidentielle une telle condamnation à deux reprises, même si elle n'est pas encore confirmée par la Cour de cassation, est-ce que ça fait un peu désordre pour un parti qui se revendique, parti de l'ordre, de la sécurité, de la morale, c'est peut-être ça son problème.
Oui, d'ailleurs, je pense que dans la campagne, les adversaires de Marine Le Pen ne manqueront pas de rappeler qu'elle a été condamnée par deux fois pour détournement de fonds publics. Ça sera un élément de la campagne que cette.
Vous voulez dire que ça va être le sparadrap du capitaine Haddock ?
Ça va être le sparadrap de Marine Le Pen, absolument. Oui. En revanche, et ça, je pense que c'est très clair, pour les électeurs, il me semble que pour les électeurs du Rassemblement National, ça n'a strictement aucune importance. Et c'est pour moi un élément tout à fait étonnant sur lequel il faut souligner. Je pense que Marine Le Pen, pourrait-elle être condamnée de manière définitive, ça n'aurait aucun effet sur les électeurs du Rassemblement National.
La question, évidemment, c'est le deuxième tour. Comment passer le fameux plafond de verre des 50%? Et là, ça risque de choquer ceux qui ne sont pas naturellement des électeurs de premier tour de Marine Le Pen.
C'était le deuxième temps que je voulais souligner. C'est effectivement le boulet, ça va être pour le deuxième tour, beaucoup plus que pour le premier.
Dernière question, le candidat à une élection présidentielle doit déposer un compte de campagne, recevoir 500 signatures, déposer une déclaration patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous me confirmez qu'en janvier ou en février, ou même pire, au mois d'avril, si c'est le calendrier de la Cour de cassation tel qu'il a été présenté, ce sera difficile, voire carrément impossible, de changer de candidat. Donc Marine Le Pen, elle sera candidate jusqu'au bout, quel que soit l'arrêt de la Cour de cassation. On est d'accord là-dessus?
Absolument. Il n'y aura aucun changement de candidat. Marine Le Pen, même si elle a un bracelet électronique, sera candidate, brandira son bracelet électronique comme un martyr et usera de cette rhétorique jusqu'au bout.
Donc, j'en reviens à la première question que je vous ai posée au début de cet échange. Les juges de la Cour d'appel ont rendu pas un jugement de Salomon, mais un jugement diplomatique, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Sauf qu'à l'arrivée, c'est elle qui est en train de gagner cette course judiciaire contre la montre. C'est elle qui va pouvoir mener campagne sans bracelet électronique et, j'allais dire, vaille que vaille, une fois que l'élection présidentielle sera passée.
Cet arrêt de la Cour d'appel est incontestablement pour elle une victoire, même si formellement, ce n'est pas une victoire du tout, puisqu'elle est condamnée. Mais dans l'optique de la présidentielle, c'est une victoire qui lui a été accordée, encore une fois, hein, à son corps défendant par le tribunal correctionnel en première instance, qui, dans sa décision, a fragilisé, pour moi, hein, considérablement. Les choses eussent été différentes si le tribunal correctionnel n'avait pas pris cette position initiale. C'est pour ça que je suis assez marqué par cette décision initiale, qui pour moi est un peu le péché originel de cette affaire.
En tout cas, ça me permet de terminer comme j'ai commencé. Il y a bien, de fait, le droit, la morale et la politique. La preuve avec cet arrêt de la Cour d'appel. Merci Pierre Egea de nous avoir éclairé sur cette actualité à la fois juridique et politique. C'est le rôle de Quid Juris chaque semaine de décrypter cette actualité à la lumière du droit. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur la plateforme de notre partenaire BFM et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 117e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.